Je pense que ça vient beaucoup du public, une ouverture d'esprit et d'écoute très éclectique et qui se permet de voyager d'univers différents très très facilement, sans jugement et avec beaucoup beaucoup d'accueil. Je pense que ça peut venir de là. Voilà.
Et puis historiquement, on a aussi souvent l'univers du métal va aller chercher un enracinement, ou que ce soit vers les terres nordiques ou... Et puis l'enracinement va coïncider avec ce qu'on fait aussi, avec cette musique et avec les recherches de certains.
Vous vous définissez comme groupe de métal, parce que justement vous êtes au Motoculteur, qui est effectivement une scène où il y a des groupes assez énervés.
Ouais.
Vous vous définissez en tant que groupe de métal ou vous êtes là un peu par hasard ?
Alors je ne pense pas que ce soit un hasard, puisque ça fait quand même quelques années que Yann a eu l'occasion de découvrir notre travail. Et je pense qu'il y a beaucoup d'affinités avec ce qu'on fait, avec l'univers de métal. Pour autant, nous ne sommes pas un groupe de métal. On n'a pas une charte et des codes qui sont ceux du métal.
On est arrivé là, parce qu'il y a un côté mystique.
Tout à fait, ça par contre, oui.
Il y a un côté mystique.
Oui, c'est vrai.
Et quand tu chantes,
oui.
je me permets de te tutoyer.
Mais fais-le.
Quand tu chantes, tu chantes dans quel... parce que j'ai pas reconnu l'anglais. Oui.
Non, ça n'en est pas.
J'ai pas reconnu le français non plus.
Ça n'en est pas non plus.
Alors, tu chantes dans une...
Dans une langue que la terre m'inspire beaucoup.
D'accord.
Ce serait plutôt entre le... c'est plutôt magique, on va dire.
Okay.
Quelque chose qui ne mérite même. Voilà, c'est plutôt magique.
Voilà, c'est toi qui a, on va dire, inventé.
En quelque sorte, je me suis laissé traverser par ce que les terres bretonnes me véhiculent en moi.
À 90%, c'est tout cette création de Cohen. Et on va dire qu'on a 10% des. 10%, c'est pas mathématique hein, comme recherche, mais on a 10% des voix, certains gimmicks que vous avez pu entendre. C'est le dernier titre, par exemple, c'est chanté en gaulois, ce qui est assez étonnant. C'est une incantation qui a été retrouvée sur des vieilles poteries, ça a plus de 2000 ans en fait.
Ouais,
une incantation magique.
C'est vrai, c'est de la sorcellerie.
Historique.
Ouais.
Historique.
Ouais.
On utilise aussi des petits fragments de gallois aussi, un petit peu de breton.
Un tout petit peu de breton, oui aussi.
Et ça vient souvent d'inscriptions qu'on a trouvées sur des pierres, y compris en Bretagne, ou des vieux textes qui ont été gravés sur des amphores, des choses comme ça qu'on a retrouvées. Mais le lien avec le métal, c'est peut-être qu'on n'a pas, les vecteurs du métal tels qu'on peut les imaginer, basse, batterie, guitare et tout ça, mais dans l'esprit tribal, c'est ça qui va faire la jonction, certainement, avec la partie du métal. Quoi.
Alors, il y a un aspect ésotérique qui est présent dans vos textes, et quand on le voit sur scène, c'est encore plus ésotérique, au sens où on a l'impression d'assister à quelque chose qui est fait pour pas qu'on comprenne, ou en tout cas pour être crypté.
Alors, l'objectif est atteint, je dirais ça.
Et comment vous travaillez cet aspect ésotérique ?
Alors, par contre, là, pour ce qui me concerne, ça n'est pas un travail. C'est quelque chose d'assez naturel. Voilà.
Oui, ça a été un peu finalement, l'aboutissement dans les parcours variés qu'on a pu avoir, de tout ce qu'on aime un peu, qui se retrouve comme ça spontanément, aussi bien le mégalithisme en Bretagne que les voyages vers les îles. C'est un truc inné, et puis à un moment donné, ça sort dans une musique comme ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir exprimer dans du funk ou du rock festif. Donc aussitôt qu'on part dans ce genre musical, toutes ces espèces d'énergie ressortent spontanément et ça trouve une sorte d'exutoire.
C'est aussi qu'on l'a fait naître, ce projet, parce qu'on voulait pouvoir laisser exprimer cette part mystique, mystérieuse, ésotérique, enfin chacun sa définition pour le coup. Alors, je pense qu'avec tout ce qui se passe autour, effectivement, je parle pas forcément des religions ou des cultes qu'on pourrait nous imposer ou nous proposer, hein. N'aie crainte, ce n'est rien. Des gens qui s'enjaillent plus bas. Concentre-toi là, regarde, oublie-les. En fait, le paganisme, c'est un mouvement, certes, mais c'est le mouvement de chacun d'entre nous, en fait. Si on regarde, c'est la source elle-même. c'est la terre, c'est la nature qui parle. Et c'est l'essentiel. Et avec tout ce qui s'est passé sur les dernières années, Covid, pandémie et autres confondus, les guerres et tous ces conflits actuels font qu'on a besoin de se retrouver vers l'essentiel. Et l'essentiel, bah, ce n'est autre que d'être un simple être humain à l'intérieur d'un tout. Le tout. Et le tout, c'est au-delà de la nature. Il faut voir encore plus loin. Il y a la Terre, il y a l'espace, et l'univers. Et il y a tellement de choses qu'on ne capte pas, mais qui sont bien réelles. L'énergie. L'énergie. Alors le mot pagan.
Rajouter à ça que le terme de pagan ou pagan pour nous, il nous convient pas tellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un genre musical qu'on a appelé comme ça. Donc quand les gens demandent qu'est-ce que vous faites, on va dire bon. Voilà. Mais déjà nous, pagan, ça vient du latin, ça veut dire païen. Donc c'est tout de suite une appellation qui vient de la part des gens qui n'étaient pas religieux et qui appelaient ceux qui ne l'étaient pas comme ça. Tandis que si on se réfère, par exemple, à ce qui a pu être justement le paganisme ici en Bretagne, c'était simplement la religion, un système de croyance qui a précédé le christianisme. Mais nous, on ne s'affirme pas pagan, c'est qu'à un moment donné, les gens demandent toujours, alors comment vous définissez votre musique? Alors, un groupe qui fait du reggae, mais pas tout à fait du reggae, il va dire, bah, on fait quand même du reggae. Et puis, donc voilà. Mais
les gens de la famille pagan peuvent nous reconnaître là, ouais. en ce sens. Mais on va chercher vraiment nos énergies au-delà du carcan.
Je me permets une question, parce oui. que j'ai remarqué quelque chose d'un petit peu étrange que je n'ai jamais vu. Tu as un instrument, je me permets de te tutoyer, mais tu as un instrument que tu utilises, donc une guitare, ouais. Mais en fait, il y a quelque chose de bizarre. On a l'impression que tu joues façon bassiste, mais ouais. Donc c'est quoi cet instrument-là?
Alors ça, c'est le, on pourrait dire que c'est dans la lignée de ce qu'on vient de dire, c'est à la fois inspiré par des choses peut-être ancestrales ou intérieures, et puis à côté de ça, une envie aussi d'électronique qui est complètement compatible avec ça. Donc ça, c'est une guitare que j'ai inventée en fait avec quelqu'un qui tient un magasin de musique à Pontivy, qui est un spécialiste de l'électronique qui a fait le montage, mais c'est une guitare qui n'a pas de cordes.
Donc voilà, là tu joues sur un instrument qui n'existe pas.
Non,
tu il es est... le seul à avoir.
Ah, ouais, ouais. Maintenant il existe.
Maintenant il existe.
Enfin, qu'il
il est sorti
pas,
de terre aujourd'hui.
Effectivement, ouais. Qu'il n'existait pas.
Mais ça fait vraiment partie de ce qu'on aime, d'imaginer qu'on va aussi bien utiliser un texte écrit par les Celtes il y a 2000 ans, et à côté de ça, avoir une espèce d'instrument contemporain, c'est ça qui est bien.
On est d'aujourd'hui ouais, aussi. Ouais. On peut...
Et on n'est pas, nous, dans la reconstitution, en fait. L'idée dans We Dilma, ça n'a jamais été de dire... alors, historiquement, l'histoire, ça peut nous inspirer, mais l'idée, c'est pas de dire, alors, les costumes, attention, on va les faire valider par un historien. Non, du tout, quoi. Il y a des groupes de reconstitution qui le font. Nous, c'est pas notre intérêt.
Non, nous, on est dans l'image, dans l'histoire. On a envie de prendre les gens dans un film, en fait. On vous prend, et puis on vous raconte quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est un voyage.
Et une cérémonie, un petit peu.
Mais tout à fait, et une cérémonie... Oui, complètement. Ouais, ouais. Et bien qu'on regarde les aspects, la colorimétrie, certes, mais c'est l'ode à la vie, à l'amour, à l'unité, et vraiment à l'humanité. Et à tout ce qui y entoure, le naturel, la vie qui soit au-delà de l'homme. C'est tous les maillons de la chaîne. Donc c'est une célébration de la vie, pas de la destruction. Il n'y a pas de destruction dans mon imaginaire, ni dans le sien. Ouais. On est plutôt dans la célébration de la vie.
Parce que ça, c'est un petit peu un truc qu'on a remarqué dans le milieu justement du pagan, souvent, c'est que il y a même des colorimétries souvent très sombres. Et on a trouvé ça à un moment donné un petit peu marrant, parce que quand on regarde en fait ce qu'on a pu faire même en Bretagne, même un truc comme les calvaires, c'est pas pagan, mais tout le monde imagine que les calvaires bretons, c'était un truc très sombre et de la pierre. En fait, on s'est aperçu qu'il y a plein d'endroits de Bretagne où les calvaires étaient peints à l'origine. Et finalement, le paganisme, il y a 2000 ans, il était très coloré. Même les vêtements des anciens Celtes, c'était des vêtements énormément colorés. Si on regarde tout ce qui se passe dans le nord de l'Europe, ils ont des vêtements très colorés. Et étonnamment, tous les groupes un peu pagan, ils ont des pochettes toujours très noires, très bleues, foncées, avec des symboles étranges. Et...
comme si la source de la vie devait être, alors mystérieuse, oui, mais sombre et dangereuse. Oui, il n'y a rien de plus dangereux que la vie, en fait. Mais c'est tellement beau. d'y aller, quoi, et de l'apprendre. Il y a beaucoup de belles choses également.
Alors vous parlez de couleurs, mais c'est pas qu'un projet musical. Widilma, c'est aussi un projet audiovisuel, presque transmédia.
Ah bah oui, 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 ouais. Enfin, oui, l'idée de film, l'idée de d'histoire, l'idée de scénographie, de mise en scène, c'est pas juste la musique qu'on vient planter.
Et comment vous pensez l'articulation justement entre les images et la musique?
J'ai l'impression que les images viennent presque avant la musique. Et les images, pas forcément l'image sur un téléphone ou une caméra, mais les images de ce qu'on a vu, de ce qu'on a rencontré. C'est rare qu'on fasse un morceau s'il n'y a pas une inspiration derrière, un truc qui a été vu, un paysage, une rencontre en Écosse, en Irlande, en Bretagne ou ailleurs. C'est pas une musique qu'on va faire à la maison en se disant « Alors aujourd'hui, je vais faire un morceau. » Ça vient toujours de quelque chose qu'on a capté. Et puis après, dans le deuxième temps, effectivement, on a envie de rajouter de l'image, que les gens soient emportés dans un truc assez visuel, quoi. Une expérience un peu filmique, quoi, quand même, quoi.
Oui, je pense que la fusion se fait très naturellement. On n'y met pas tellement de réflexion, en fait, pour tout te dire. Voilà. Ça se fait, ça coule de sens, sous le sens, source. Ouais, de source, c'est mieux.
Bon, après, il faut se réfréner un peu, parce que sur un festival, on ne va pas non plus arriver avec 3 tonnes de matériel. Faut arriver à s'installer assez rapidement entre deux groupes. Donc, voilà.
Troisième jeune homme.
Ben, en fait, il y a des groupes de métal en Bretagne, qui chantent en breton, il y en a plusieurs, mais là on touche à un problème qui n'est pas lié au métal, c'est que la langue bretonne étant malheureusement en train de devenir extrêmement minoritaire, quand un groupe, il y a un trio par exemple à Brest là, qui fait du métal, qui est vraiment bien, qui chante en breton, mais c'est très difficile de trouver des débouchés pour des groupes qui chantent en breton, parce que les gens ne sont pas très intéressés en fait, il faut être honnête. Quand aujourd'hui tu fais un groupe où tu chantes en breton, si c'est basé sur du texte, tu vas pas beaucoup jouer dans les festivals, parce que si tu prolonges ta musique par quelque chose de visuel, éventuellement les gens vont dire, bon, peu importe ce que tu chantes, quand on écoute par exemple quelqu'un comme Eivor, elle chante dans la langue qui est parlée aux îles Féroé, il y a très peu de gens qui savent parler la langue des îles Féroé, mais on est pris par la magie. Quand c'est un groupe de métal et les gars viennent chanter en breton, les gens ont envie d'entendre de l'anglais peut-être, ou du français éventuellement. Donc en Bretagne, il y a des groupes, mais je pense que c'est très dur pour des groupes qui font du rock. Il y a même des groupes qui font du funk en breton, en Bretagne. Des purs groupes de funk qui chantent en breton. Donc leur but, c'est pas de faire de la musique. Leur but, c'est pas de faire un crossover. C'est de dire, on va prendre ou du reggae ou du rock, mais on va le chanter au breton au lieu de le chanter en français ou en anglais. Et ces groupes-là, ils ont énormément de mal à travailler, quoi.
Parce que ça dépasse la frontière de la Bretagne, principalement.
Et même en Bretagne, disons qu'un festival l'été sur la côte, il ne va pas prendre un groupe de métal qui chante en breton. Ils vont prendre un groupe de chants de marins.
Alors que là, vous inventez pratiquement une langue.
Oui.
Oui.
Donc du coup, ça risque de... C'est ça, parce que là, finalement, votre identité, elle est reliée à la Bretagne, parce que vous parlez beaucoup, mais historiquement aussi. Mais finalement, vous avez une langue... à inventer.
Oui.
Donc du coup là, elle traverse un peu toutes les frontières. Le breton, nous on est breton, donc forcément on va s'y intéresser, les autres vont pas forcément s'y intéresser. Oui. Et là du coup vous inventez une langue qui...
C'est la sonorité, oui, je pense qu'au-delà d'être une langue, c'est une émotion.
Ouais, c'est ça, hein.
Et donc ça devient un instrument à part entière, plus qu'une langue. Mais c'est la langue du cœur et de l'âme. C'est comme si j'étais juste traversée par un tout, un ensemble, ce qui me vient et que je transmets.
Et quand vous faites le clip de Brixtia, c'est aussi ce qui vous vient sur le moment ?
Oui, parce que c'est exactement ça. C'est l'expression corporelle au même titre que l'expression vocale. C'est, ça va de pair en fait. C'est laisser s'exprimer l'animal ou le non-corps terrestre, si je dirais ça.
Tout le fait d'appeler le public à faire les loups.
Oui, exactement. Ben oui, c'est bien d'avoir des loups. Vous aimez les loups ? On n'en voit pas, mais il faut les protéger. Ouais.
En plus, les loups, parce qu'il y a, y a plein de choses qui ne sont pas, enfin, qui peuvent paraître être comme ça, venir de nulle part. Mais par exemple, les loups qu'on entend dans notre musique, c'est des loups de Bretagne qu'on a enregistrés. On va, on n'a pas envie non plus d'aller chercher un enregistrement de loups sur Internet. Tu tapes loup. Là, les loups, ils viennent de la forêt de Kénécan, des choses comme ça. Et on aime bien que ça soit relié quand même à un truc qu'on a vécu, qu'on aime. Quoi. Quand on utilise, par exemple, des sons aussi un peu organiques, des fois, on sait que tel endroit, il y a une pierre. Bon, ce soir, on n'a pas utilisé, par exemple, il y a un des percussionnistes du groupe frappe sur une pierre. Et cette pierre, elle vient de la forêt de Kénécan, des choses comme ça. On ne va pas aller acheter une pierre chez Bricomarché, quoi. On a envie que cette pierre, elle vienne aussi d'un endroit qui nous a inspiré.
Voilà. Voilà. Exactement, ouais, ouais. Comme certaines mélodies, elles sont nées en fait dans des mégalithes entourés d'endroits où mes ancêtres ont vécu et encore plus loin. Donc il se passe des choses pour moi énergétiquement que je vais, j'accepte de recevoir. Voilà.
J'ai une autre question, je suis désolé. Vous avez une corde vous utilisez.
Ah oui,
la grande.
Le carnix.
Alors, cet instrument.
Alors ça, c'est un carnix. C'est un instrument très ancien qu'on a retrouvé. On en a retrouvé des gravures jusqu'en Inde. D'ailleurs, c'est étonnant parce que on sait que les Celtes sont allés jusqu'à l'Inde parce qu'on a retrouvé des gravures en Inde où on voit des guerriers avec des entrelacs dans les cheveux. Et les historiens sont sûrs que c'était une dépiction quoi, des Celtes par les Indiens. Et surtout sur un truc qui s'appelle le chaudron de Goodenstrup, on voit des soldats celtes qui jouent du carnix. Et dans les textes de César, il dit que les Celtes allaient au combat en fait en jouant ces carnix. Et on a retrouvé quelques carnix, surtout à l'ouest de l'Europe, dans le sud de la France étonnamment, et en Écosse. Donc il y a plusieurs modèles, et celui que j'ai, c'est la reproduction d'un des modèles de carnix. Donc c'est en fait, on pourrait appeler ça un didgeridoo celtique. Ça se joue en faisant vibrer le métal, et c'était utilisé donc à la guerre contre les Latins. Et il y avait plusieurs modèles de didgeridoo, lapsus révélateur, de carnix. Il y avait même un carnix avec une langue à l'intérieur qu'on a retrouvé. Et quand la personne qui en jouait soufflait, la langue vibrait. Et d'après César, les soldats latins étaient assez effrayés par les soldats celtes.
Ce bruit-là.
Ouais.
D'accord.
Que dans la guerre des Gaules, les Gaules sont partis.
Oui, 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 oui. Par contre, c'est un thème qui nous tient assez à cœur, même si on n'est pas guerrier. C'est vrai que on entend toujours beaucoup parler en Bretagne des Latins comme ayant apporté soi-disant les trucs. Il y a beaucoup de gens qui oublient que César, il a tué des centaines de milliers de personnes en Bretagne. Parce qu'on appelle la Bretagne, c'est-à-dire tout le territoire des deux côtés de la Manche. C'est des gens mis en esclavage. Chaque combat, il en parle dans ses textes, ça a été chaque combat se terminait par la mise en esclavage des femmes, des enfants. On tuait tous les guerriers. C'était extrêmement dur. Et ça, c'est un truc par contre qui nous hérisse un peu les poils ici. Des fois, c'est de voir que soi-disant il y aurait eu un apport latin qui aurait fait qu'à du jour au lendemain, les Celtes seraient devenus des gens éveillés, etc. Bah, même l'appellation, par exemple, des voies romaines. On nous parle tout le temps des voies romaines comme d'un truc, comme s'ils avaient été construites par les Romains, mais les Celtes, à l'époque des Vénètes, par exemple, ils avaient des échanges commerciaux jusqu'à l'Italie. Et en fait, les Romains se sont contentés de paver des voies, vraisemblablement, qui existaient déjà. Mais en fait, à un moment donné, on va appeler ça Romain. Alors nous, notre but n'est pas de faire de la politique, mais on est content aussi peut-être de remettre un peu en avant le carnix, des choses comme ça, pour dire aux gens, vous voyez, on a un vrai truc chez nous, que ce soit dans la spiritualité, ou dans deux, trois petits bribes d'histoire qu'on va vous raconter qui vont vous montrer qu'on n'a pas eu besoin non plus des Latins pour exister un jour.
Comme l'existence même de Widilma, parce que Widilma, c'est une vraie druidesse qui a existé et qui était une femme qui avait aussi le don de double vue. Et elle renseignait justement les Romains sur certaines guerres. Voilà, donc le lien il est un petit peu fait, mais ils venaient chercher cette femme. Et si on a trace, on va le rendre à César ce qui appartient à César, si on a trace de son existence, c'est parce que dans les textes romains, y est inscrit l'existence de Widilma, cette femme mystérieuse qui...
Ah oui, oui, oui. Oui, parce qu'à un moment donné, il a intégré une sorte de mercenaire dans ses armées. Donc, dans tous les pays où il passait, il récupérait des soldats. Donc, on se retrouvait avec des bataillons, effectivement, comme tu dis, de différentes nationalités qui bossaient pour lui. Quoi. Si on peut parler de bosser, oui. Mais c'est vrai que c'était ici, ça a été une catastrophe, l'arrivée des Romains. Ça a été extrêmement dur. L'autre côté de la Manche, il y a des histoires que pas grand monde connaît, parce que c'est dans des textes très érudits, mais aussitôt que les Romains ont débarqué, en fait, de l'autre côté de la Manche, ils ont fait une tentative qui a raté, ils sont revenus quelques années après. Aussitôt qu'ils ont débarqué de l'autre côté de la Manche, dans les jours qu'on suivit, ça a été des massacres, en fait. C'est un truc qu'on n'imagine plus aujourd'hui, quoi. On pense à des guerres qui ont duré très longtemps. Là, en fait, on arrivait et on commençait à tuer les gens qui voulaient pas obéir, en fait. C'était extrêmement violent. Hein.
C'est l'humanité qui est comme ça. Je pense qu'elle n'a pas changé.
Moi, personnellement, elle n'a pas changé. Alors, moi, j'ai été voir Widilma au motoculteur. Je vous ai déjà vu avant. Et du coup, par contre, là, vous avez fait vraiment un set beaucoup plus électro que ça l'était, même la mise en place,
disons que c'est une évolution de la musique.
C'était moins...
Moins bourdonnant.
Avant, c'était beaucoup plus instrument et tout, là, vraiment,
Donc on fait évoluer le son aussi au fil des concerts, au fil de ce qu'on construit, le son évolue. Et on avait envie aussi de rajouter justement un petit peu plus ces influences de musique électronique, tout en gardant l'essentiel de ce que Cohen a pu dire sur le fond.
Ça emmène juste tout, quoi.
Et puis c'est l'évolution, ne pas rester stagner. C'est-à-dire ce qui nous a amené à aller jusque-là. Et puis demain, on va peut-être muter encore un peu, mais en tout cas...
Et alors justement, par rapport à quand vous étiez en solo, entre guillemets, avec Cohen, vous vous sentez plus libre dans ce projet, plus...
En fait, ce sont des passerelles. Ce sont que des facettes de mes couleurs que je peux exprimer. Et librement, dans ce projet-là, de façon différente, en fait. Voilà. C'est vraiment... Je ne le vois pas en monochrome. Multipass, on va rigoler avec ce mot. Allez, multipass. Mais c'est vrai, je veux dire que j'ai plein de monde et je peux être toutes les femmes que je suis, plus librement. Et ici, je peux en déposer une qui est extrêmement puissante. Voilà.
Ça, c'est bon. On est refait.
Parfait.
Merci beaucoup pour vos questions pertinentes. C'était très agréable.
Merci.